Pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources, on va s'attaquer à un document d'une précision vraiment fascinante.
Oui, c'est le genre de format hyper spécifique que j'adore décortiquer.
Bah oui, exactement. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est de comprendre comment les grands bouleversements macroéconomiques ou même sociaux d'un pays entier peuvent se lire à travers la loupe d'un seul et unique village.
Un vrai microcosme, quoi.
Voilà. Et pour faire ça, on se base exclusivement sur une source très précise. C'est le bulletin numéro 29 du Cartoclub Aveyronnais.
Un bulletin qui date de mars 2006, c'est ça?
C'est ça, mars 2006. Et plus spécifiquement, on va éplucher un article magistral qui est entièrement consacré à la commune de Cornus.
Et c'est là que ça devient intéressant parce que ce type de publication locale offre souvent une granularité d'informations que les grands manuels d'histoire ont un peu tendance à lisser ou à oublier.
Absolument.
Prendre un petit village comme laboratoire d'analyse, ça permet vraiment d'ancrer des concepts hyper abstraits comme l'exode urbain ou l'industrialisation dans une réalité physique, une réalité humaine qui est palpable.
Mais avant de dérouler tout le fil de cette histoire, je crois qu'il faut vraiment saluer le travail de recherche colossal qui permet notre discussion d'aujourd'hui. L'article sur Cornus a été rédigé par Françoise Canac.
Oui, avec des contributions qui étaient indispensables, je crois.
Tout à fait. Celle de Charles Reynaud et de Jean Delmas pour toutes les recherches historiques.
C'est un travail d'équipe.
Un énorme travail d'équipe. Et il faut aussi mentionner la mise en forme de cette somme d'informations. La maquette, l'intégration des documents iconographiques, c'est l'œuvre de Guy Mazard. Il officiait en tant que rédacteur en chef et concepteur du bulletin.
Et c'est crucial de le préciser, parce que la cartophilie, donc l'étude des cartes postales anciennes, c'est l'âme de ce bulletin. Sans cette mise en page rigoureuse, l'impact visuel serait perdu.
C'est grâce à cette rigueur qu'on a accès à ces pépites aujourd'hui. Ces bouts de carton y figent vraiment un espace-temps.
Cornus n'est pas juste un petit point sur la carte du sud de l'Aveyron. C'est un endroit où se percutent la désertification, l'essor industriel, son déclin et même les stigmates des guerres de religion.
Bah tiens, pour commencer par le commencement, l'identité même de ce lieu, elle démarre par son nom.
Ah oui, l'étymologie.
Voilà, les recherches de Charles Reynaud nous apprennent que l'étymologie de Cornus trouve son origine dans la botanique locale.
C'est assez poétique.
C'est super poétique. Le toponyme dériverait du Cornus mas. C'est le cornouiller, un petit arbrisseau aux fleurs jaunes.
Qui est particulièrement tenace d'ailleurs. Il pousse sur les terres super arides du Larzac méridional.
C'est ça. Et son bois était réputé pour sa robustesse. On s'en servait pour faire des manches d'outils, des cannes ou des cercles de barriques.
En fait, c'est génial de voir qu'une communauté humaine entière s'est définie par une ressource purement utilitaire, directement tirée de la rudesse de son sol.
C'est l'ancrage local parfait. Et cette rudesse géographique, elle encadre aussi toute l'évolution démographique dont on va parler.
Oui, parce que Cornus, c'est un véritable géant territorial en fait.
Ah oui?
Bah, avec ses 9274 hectares, c'est l'une des communes les plus vastes de tout le département.
C'est immense!
C'est immense! Et c'est justement cette immensité spatiale qui rend la chute de sa population d'autant plus vertigineuse. Si on regarde l'analyse des recensements dans l'article, on voit un effondrement structurel total.
Les chiffres sont durs.
Très durs. La commune comptait 1614 habitants en 1886. C'était vraiment le fait de son développement. Et en 2004, on dégringole à seulement 364 habitants.
C'est une perte de près de 80% de sa population en un peu plus d'un siècle.
C'est ça, une hémorragie.
D'ailleurs, le bulletin illustre ce territoire avec une carte postale éditée par CIM dans les années 50. Elle s'intitule « Cornus Aveyron, vue générale, aérienne ».
Oui, je vois très bien laquelle c'est.
C'est une image colorisée qui montre le village blotti au fond d'une vallée très vaste, à 630 mètres d'altitude, et littéralement écrasé par les falaises du plateau du Larzac. Il y a le rocher des Fourches qui domine l'ensemble à 800 mètres.
Quand on regarde cette image, elle respire une tranquillité absolue. Mais quand on a les chiffres du déclin démographique en tête, comme on vient de le dire, cette tranquillité ressemble plutôt au silence qui suit une tempête, quoi.
Exactement. Et ce silence, il contraste de manière ultra frappante avec l'activité bouillonnante du 19e siècle.
C'est clair. Aujourd'hui, on imagine un village de 300 habitants comme un lieu surtout résidentiel qui dépend complètement des grandes villes à côté pour les services.
Alors que le document nous révèle qu'au siècle précédent, Cornus abritait un écosystème économique d'une densité étourdissante. Il n'y avait pas moins de 87 artisans et commerçants en activité en même temps.
87, c'est fou.
La liste détaillée force vraiment la réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Il y avait 4 forgerons, 8 aubergistes, 3 bourliers.
Des sabotiers aussi, non?
Des sabotiers, des chapeliers, des couteliers, un horloger. Si on rapporte ce chiffre à la population de l'époque, on a un ratio d'environ un artisan ou commerçant pour 18 habitants.
C'est une économie presque en circuit fermé. Ils pouvaient subvenir à quasiment tous les besoins matériels de leur communauté, alors même qu'ils étaient isolés.
Mais cette densité artisanale, elle ne s'est pas développée par hasard.
Ah non, le moteur de cette effervescence, au sens propre du terme, c'était l'énergie hydraulique.
L'eau.
Exactement. Les rivières Sorgues et Boras ont littéralement transformé ce fond de vallée en zone industrielle rurale. Dès le XVIIIe siècle, l'eau actionnait les mécanismes d'une fabrique de draps et d'étoffes.
Il y avait le moulin Ferrand aussi qui est mentionné.
Oui. Le moulin Ferrand abritait une papeterie florissante jusqu'en 1905. Et il y avait des filatures actives jusqu'en 1925, une tannerie, des moulins à farine.
C'est fou de se dire qu'il y avait un vrai prolétariat rural qui bossait en usine et qui cohabitait juste à côté avec une paysannerie qui luttait sur des petites terres hyper morcelées.
Le contraste est saisissant. Surtout que, sur le plan agricole, l'article met en lumière un lien assez inattendu avec l'industrie fromagère.
Ah oui, le Roquefort qui...
Voilà. Le village possédait une laiterie au lieu-dit La Ville, pour le lait de brebis. Mais le truc le plus marquant, c'est la cave de la Fajolle.
Dissimulée dans les falaises du plateau.
C'est ça. Elle produisait environ 150 quintaux de fromage par an avec les méthodes du Roquefort. Françoise Canac précise d'ailleurs que c'était ce qu'on appelait une cave bâtarde.
Une cave bâtarde.
Oui, c'est un terme technique pour désigner les sites de production qui étaient en dehors du périmètre officiel d'affinage du Roquefort, tel qu'il a été reconnu plus tard.
Super intéressant. Et pour rester sur l'agriculture, la rudesse du travail transparaît vraiment dans l'iconographie du bulletin. Il y a une carte postale très révélatrice.
Celle avec la légende des Romiers ?
Oui, l'éditeur avait mis 600 cornus. La Douce. Mais en fait, le lieu exact, c'est La Douce. Et ça montre une scène de dépiquage du blé sur une aire publique.
La méthode est totalement archaïque, surtout si on la compare avec les usines hydrauliques qui tournaient quelques rues plus loin.
On y voit 7 chevaux attachés ensemble. Ils tournent en rond sans arrêt pour détacher des grains de blé avec leurs sabots. Et il y a des hommes qui retournent inlassablement la paille à la fourche pendant que des gamins regardent ça en arrière-plan.
C'est la transition parfaite. L'effort collectif millénaire d'un côté... la machine de l'autre.
Mais l'économie, c'est pas le seul truc qu'a façonné Cordus. L'espace physique du village est aussi marqué par de grosses fractures idéologiques.
Oui, à commencer par la religion. Dès la seconde moitié du XVIe siècle, l'influence de la Réforme, qui venait de Suisse, commence à s'étendre sur le Rouergue.
Le calvinisme trouve un écho super fort à Milou.
Et Cornus bascule complètement dans cette mouvance.
Les conséquences se lisent directement dans l'urbanisme. Le calvinisme n'a pas juste été une transition spirituelle. Ça a entraîné des destructions physiques majeures. Les 2 églises catholiques ont été réduites en ruines.
C'est ça. Et l'église principale, Notre-Dame, n'a été reconstruite sur ses fondations qu'à partir de 1685. Il y a d'ailleurs une inscription latine sur la clé de voûte du portail « Vivat Ludovicus Magnus 1688 ».
Ça grave vraiment dans la pierre la reprise en main par le pouvoir royal de Louis XIV.
L'année de sa consécration, oui.
Mais le paysage garde quand même une trace indélébile de cette diversité. Au début du 19e, il y a un événement architectural rare pour le coin. Grâce aux legs d'un enfant du pays né en 1731, un riche commerçant nommé Paul Coulon, un temple protestant est construit.
Et c'est exceptionnel, l'article insiste bien là-dessus. C'est le seul temple de toute la vallée de la Sorgue.
Avec son propre cimetière contigu.
Oui, avec une 20aine de tombes. Ça montre bien qu'une communauté protestante minoritaire était encore très solidement ancrée.
Et si la religion a sculpté le patrimoine bâti, il y a autre chose qui a rythmé la vie sociale. C'est l'armée.
Ah, le camp du Larzac.
Voilà. La proximité de ce gigantesque camp militaire transformait souvent les rues de Cornus en vrai théâtre. Les régiments de fantassins en manœuvre traversaient la commune et ça provoquait à chaque fois des rassemblements énormes de la population.
Ils devaient être fascinés par ce déploiement de force et tous ces uniformes.
Complètement. Il y a une carte postale analysée dans le bulletin qui montre un de ces passages. Et le texte au dos de la carte y glace vraiment le sang avec le recul.
Qu'est-ce qu'il dit exactement?
L'expéditeur a écrit, je cite, « Cornus, le 29 avril 1913, tableau de demain, héroïsme, victoire. »
Waouh, c'est terrifiant. Cette superposition entre l'enthousiasme naïf d'un civil et la boucherie de la Première Guerre mondiale qui arrivait.
C'était juste un an plus tard.
L'auteur de ces lignes ignorait totalement que la mécanisation industrielle que le village connaissait en petit allait se déployer sur les champs de bataille pour broyer toute une génération.
Et il faut s'arrêter 2 secondes sur l'impact de cette saignée pour un village de cette taille. L'exode rural, dont on parlait tout à l'heure, C'est pas juste des jeunes qui partent en ville pour trouver un job.
Non, c'est tragiquement accéléré par la Grande Guerre. Les campagnes ont été littéralement vidées de leur force vitale. Quand on regarde les monuments aux morts, on comprend la rupture de transmission des savoir-faire.
C'est le tissu social entier qui a dû se réorganiser. D'ailleurs, l'article étudie très bien les espaces de sociabilité du village. L'espace public devenait un vrai salon à ciel ouvert.
Le centre névralgique, c'était le lieu dit « le quai ». C'est décrit comme un carrefour interclassiste assez fascinant.
C'est ça, la ségrégation sociale s'y effaçait l'espace d'un instant. La bourgeoise croisait le facteur, les ménagères, les artisans couverts de poussière.
Et la carte postale de 1920, Cornus, la fontaine qui illustre super bien ça. On y voit la fontaine au griffon avec un groupe de jeunes écolières endimanchées.
Et le truc dingue, c'est que l'érudition des chercheurs a permis de remettre des noms sur ces visages figés.
Oui, Marguerite Martille, Hortense Ranque, les sœurs Hugla. Nommer ces figures anonymes, ça redonne tellement d'humanité à l'étude.
Mais cette fontaine, elle dépasse de loin le cadre juste anecdotique de la photo.
Faut bien mesurer la pénibilité du quotidien à l'époque. Cette fontaine, c'était le seul point d'approvisionnement en eau exclusive du village jusqu'en 1954.
1954. C'est super tardif pour l'eau courante.
Très tardif. C'était le point de ralliement obligatoire pour échanger les rumeurs et le transport de l'eau se faisait dans des cruches en zinc hyper lourdes.
En équilibre sur la tête, non ?
Exactement, en équilibre sur la tête, rendu supportable juste grâce à un petit coussinet traditionnel qu'ils appelaient la cabessana.
La cabessana, ces petits détails linguistiques, c'est vraiment la signature de l'identité régionale. Il y a l'architecture aussi. L'analyse de la carte titrée par erreur « L'Aveyron, la rue du Larzac »
alors que c'est la rue Haute.
C'est ça. Cette carte met en évidence une structure hyper spécifique, l'aubalet.
C'est cet escalier de pierre extérieur pour accéder à l'étage, c'est bien ça.
Exactement. Et ça créait un espace semi-public, un petit perron où les gens s'asseyaient forcément pour regarder la rue et papoter avec les passants.
C'est un cadre bâti qui favorise vachement le folklore local. Et en parlant de ça, l'article montre bien le mélange entre figures intellectuelles et traditions purement burlesques.
Pour les intellectuels, il y a des surprises. Le bulletin mentionne le curé doyen Ernest Russell, dont l'épouse avait une vraie carrière littéraire.
Sous le pseudonyme de Camille Marbeau, oui.
Elle écrivait des ouvrages un peu moraux pour jeunes filles, un peu à la comtesse de Ségur. Et elle a quand même eu le prix féminin en 1913 pour son roman « La statue voilée ».
Ça tranche pas mal avec les pratiques populaires du village.
Ah, ça le contrastait total. Sur le calendrier festif, il y avait notamment la célèbre fête des cornards.
Rien que le nom.
C'est ça. La coutume, c'était de capturer les derniers mariés de l'année pour les forcer à parader dans les rues du village juchés sur des ânes.
Une pure tradition carnavalesque classique. Ça purgeait les tensions sociales par le rire et ça affirmait la cohésion du groupe par une petite transgression.
Et la mémoire de cette communauté, elle s'inscrivait aussi dans la nature, dans le végétal. Les arbres sur les places publiques servaient de repères.
L'histoire de l'arbre de la liberté est assez marquante.
Un gigantesque peuplier pris sur les rives de la Sorgue, planté en 1848 par 4 conscrits pour le printemps des peuples.
Il a vu passer toute la croissance économique avant d'être foudroyé par une tempête en octobre 1937. Et c'est là qu'on voit l'attachement des anciens, qui étaient complètement désemparés.
Heureusement, le flambeau a été repris par un tilleul planté en 1919, logiquement baptisé l'arbre de la victoire.
Toute cette histoire humaine s'inscrit dans un environnement naturel qui est d'ailleurs assez dingue. Les limites de la commune englobent le plateau du Guillaumard.
C'est l'extension méridionale du Causse du Larzac.
Oui. Et c'est un vrai sanctuaire botanique pour les spécialistes qui cherchent des variétés rares d'orchidées sauvages.
Mais le truc naturel le plus fou du coin, c'est la veine du Mas Reynal.
La géographie souterraine est vertigineuse là-bas. C'est une ouverture béante dans le sol, grande comme une place publique, qui plonge d'une traite dans les ténèbres jusqu'à 103 mètres de profondeur.
103 mètres, c'est le pionnier E.A. Martel qui a exploré ça en 1899, non ?
Tout à fait. Et depuis le bord du gouffre, on entend gronder la rivière souterraine qui va nourrir la Sorgue. Ça remet un peu les choses en perspective par rapport à la brièveté de l'histoire industrielle dont on parlait.
C'est clair. Quand on rassemble toutes ces données, du gouffre de 103 mètres à la petite cruche en zinc portée sur la tête avec la cabessana, on voit la valeur de ces documents de niche.
C'est l'enseignement majeur de cette lecture. Un simple bout de carton, illustré, édité pour quelques centimes au début du XXe siècle pour une petite communication rapide, ça devient une archive anthropologique de premier plan. Sans le regard critique des auteurs et le travail des éditeurs pour compiler ces cartes postales, toute cette complexité du monde rural pré-industriel serait perdue, engloutie par l'exode rural.
Et justement, comprendre cet effondrement démographique des campagnes au profit des villes, ça pose une vraie question sur l'avenir. Le XXe siècle a vidé ses vallées, aspirant tout vers les métropoles. Mais avec l'ère numérique, la banalisation du télétravail, on peut se demander si ce flux historique pourrait pas s'inverser.
C'est une vraie possibilité.
Est-ce que les descendants de ceux qui ont quitté ces villages en ruine feront le chemin inverse au XXIe siècle, avec leurs connexions satellites, pour repeupler ces espaces?
La désertification rurale va peut-être devenir un phénomène du passé.
C'est une perspective à garder en tête en observant l'évolution de nos propres géographies locales. D'ailleurs, on peut se poser la question, nos milliards de photos numériques noyées dans le cloud aujourd'hui, est-ce qu'elles auront la même force de témoignage pour les historiens du XXIe siècle que ces petits morceaux de carton envoyés par la poste? C'est une réflexion fascinante sur laquelle on va clore cette exploration.